Chapitre 8. Quelques pages historiques sur Jean Roussel, Larsan, Ballmeyer. Une heure plus tard, nous étions tous à notre poste et nous faisions les 100 pas le long des parapets, examinant attentivement la terre, le ciel et les eaux et écoutant avec anxiété les moindres bruits de la nuit, la respiration de la mer, le vent du large, qui commença à chanter vers 3 heures du matin. Mistress Edith, qui s'était levée, vint alors rejoindre Rouletabille sous sa poterne. Celui-ci m'appela, me donna la garde de la poterne et de Mistress Edith, et s'en fut faire une ronde. Mistress Edith était de la plus charmante humeur du monde. Le sommeil lui avait fait du bien, et elle semblait s'amuser follement de la figure blafarde qu'elle venait de trouver à son mari auquel elle avait porté un verre de whisky. « Oh, c'est très amusant !» me disait-elle en frappant dans ses petites mains. « C'est très amusant !» « Oh, ce Larsan, comme je voudrais le connaître !» Je ne pus m'empêcher de frissonner en entendant ce blasphème. Décidément, il y a de petites âmes romanesques qui ne doutent de rien et qui, dans leur inconscience, insultent au destin. Ah, la malheureuse, si elle s'était doutée! Je passais 2 heures charmantes avec Mistress Edith à lui raconter d'affreuses histoires sur Larsan, toutes historiques. Et puisque l'occasion s'en présente, je me permettrai de faire connaître au lecteur historiquement, si je puis me servir ici d'une expression qui rend parfaitement ma pensée, ce type de Larsan Ballmeyer, dont certains, à l'occasion du rôle inouï que je lui attribuais dans le mystère de la chambre jaune, ont pu mettre l'existence en doute. Mais comme ce rôle atteint dans le parfum de la dame en noir à des hauteurs que quelques-uns pourraient juger inaccessibles, j'estime qu'il est de mon devoir de préparer l'esprit du lecteur à admettre en fin de compte que je ne suis que le vulgaire rapporteur d'une affaire unique dans le monde et que je n'invente rien. Au surplus, Rouletabille, dans le cas où j'aurais la sotte prétention d'ajouter à une aussi prodigieuse et naturelle histoire quelque ornement imaginaire, s'y opposerait et me dirait mon fait raide comme balle. Des intérêts trop considérables sont en jeu, et le fait d'une telle publication doit entraîner de trop redoutables conséquences pour que je m'astreigne point à une narration sévère, un peu sèche et méthodique. Je reverrai donc ceux qui pourraient croire à quelque roman policier. L'abominable mot a été prononcé au procès de Versailles. Maître Henri Robert et Andréès, qui plaidaient pour M. Robert Darzac, firent entendre d'admirables plaidoiries qui ont été sténographiées et dont certainement ils ont dû conserver quelques copies. Enfin, il ne faut pas oublier que bien avant que le destin ne mit aux prises Larsan Ballmeyer et Joseph Rouletabille, l'élégant bandit avait donné une rude besogne au chroniqueur judiciaire. Nous n'avons qu'à ouvrir la Gazette des tribunaux et à parcourir les comptes rendus des grands quotidiens, le jour où Ballmeyer fut condamné par la cour d'assises de la Seine à 10 ans de travaux forcés pour être renseigné sur le type. Alors on comprendra qu'il n'y a plus rien à inventer sur un homme quand on peut raconter une pareille histoire. Et ainsi le lecteur, connaissant désormais son genre, c'est-à-dire sa façon d'opérer et son audace sans seconde, se gardera de sourire quand Joseph Rouletabille, prudemment entre Ballmeyer Larsan et Madame Darzac, jettera un pont-levis. Monsieur Albert Bataille, du Figaro, qui a publié les admirables causes criminelles et mondaines, a consacré de bien intéressantes pages à Ballmeyer. Ballmeyer avait eu une enfance heureuse. Il n'est point arrivé à l'escroquerie comme tant d'autres après avoir parcouru les dures étapes de la misère. Fils d'un riche commissionnaire de la rue Mollet, il aurait pu rêver d'autres destinées, mais sa vocation, c'était la mainmise sur l'argent d'autrui. Tout jeune, il se destina à l'escroquerie comme d'autres se destinent à l'école des mines. Son début fut un coup de génie. L'histoire est incroyable. Ballmeyer, subtilisant une lettre chargée adressée à la maison de son père, puis prenant le train pour Lyon avec l'argent volé et écrivant à l'auteur de ses jours « Monsieur, je suis un ancien militaire retraité et médaillé. Mon fils, commis des postes, a pour payer une dette de jeu soustrait dans le bureau ambulant une lettre à votre adresse. J'ai réuni la famille et d'ici à quelques jours, nous pourrons parfaire la somme nécessaire au remboursement. Vous êtes père, ayez pitié d'un père. Ne brisez pas tout un passé d'honneur. » Monsieur Ballmeyer, père, accorda noblement des détails. Il attend encore le premier acompte, ou plutôt il ne l'attend plus, le procès lui ayant appris, après 10 années, quel était le vrai coupable. Ballmeyer, rapporte Monsieur Albert Bataille, semble avoir reçu de la nature tous les attributs qui constituent l'escroc de race. Une prodigieuse variété d'esprit, le don de persuader les naïfs, le souci de la mise en scène et du détail, le génie du travestissement, la précaution infinie à ce point qu'il faisait marquer son âge à des initiales appropriées toutes les fois qu'il jugeait utile de changer de nom. Mais ce qui le caractérise surtout, c'est, en dehors d'aptitudes étonnantes pour l'évasion, une coquetterie de fraude, d'ironie, de défi à la justice. C'est le plaisir malin de dénoncer lui-même au parquet le prétendu coupable, sachant combien le magistrat s'attarde par tempérament aux fausses pistes. Cette joie de mystifier les juges apparaît dans tous les actes de sa vie. Au régiment, Ballmeyer vole la caisse de sa compagnie. Il accuse le capitaine trésorier. Il commet un vol de 40 000 francs au préjudice de la maison Furet, et aussitôt il dénonce au juge d'instruction M. Furet comme s'étant volé lui-même. L'affaire Furet restera longtemps célèbre dans les fastes judiciaires sous cette rubrique désormais classique « Le coup du téléphone ». La science appliquée à l'escroquerie n'a encore rien donné de mieux. Ballmeyer soustrait une traite de 1600 livres sterling dans le courrier de messieurs Furet frères, négociants commissionnaires rue Poissonnière, qui l'ont laissé s'installer dans leur bureau. Il se rend rue Poissonnière, dans la maison de monsieur Furet, et contrefaisant la voix de monsieur Edmond Furet, demande par téléphone à M. Cohen, banquier, s'il serait disposé à escompter la traite. M. Cohen répond affirmativement et 10 minutes plus tard, Ballmeyer, après avoir coupé le fil téléphonique pour prévenir un contre-ordre ou des demandes d'explication, fait toucher l'argent par un compère, un nommé Rivard, qu'il a connu naguère au bataillon d'Afrique, où de fâcheuses histoires de régiment les avaient fait expédier l'un et l'autre. Il prélève la part du lion, puis il court au parquet pour dénoncer Rivard et, comme je le disais, le voler M. Edmond Furet lui-même. Une confrontation épique a lieu dans le cabinet de M. Espierre, le juge d'instruction chargé de l'affaire. « Voyons, mon cher Furet, dit Ballmeyer au négociant ahuri. Je suis désolé de vous accuser, mais vous devez la vérité à la justice. C'est une affaire qui ne tire pas à conséquence, avouez donc. Vous avez eu besoin de 40 000 francs pour liquider une petite dette au salon des courses et vous les avez fait payer à votre maison. C'est vous qui avez téléphoné. Moi, balbutiait M. Edmond Furet anéanti. « Mais avouez donc, vous savez bien qu'on a reconnu votre voix. » Le malheureux volé coucha bel et bien à Mazas pendant 8 jours, et la police fournit sur lui un rapport épouvantable. Si bien que M. Kruppi, alors avocat général, aujourd'hui ministre du Commerce, dut présenter à M. Furet les excuses de la justice. Quant à Rivard, il était condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés. On pourrait raconter 20 traits de ce genre sur Ballmeyer. En vérité, à ce moment-là, avant de s'adonner au drame, il jouait la comédie. Et quelle comédie! Il faut connaître tout au long l'histoire d'une de ses évasions. Rien de plus prodigieusement comique que l'aventure de ce prisonnier rédigeant un long mémoire insipide uniquement pour pouvoir l'étaler sur la table du juge, M. Villers, et en bouleversant les imprimés, jeter un coup d'œil sur la formule des ordres de mise en liberté. Rentré à Mazas, le filou écrivit une lettre signée Villers, dans laquelle, selon la forme furent surprise, M. Villers priait le directeur de la prison de mettre le détenu Ballmeyer en liberté sur le champ. Mais il manquait au papier le timbre du juge. Bon, Ballmeyer ne s'embarrassa pas pour si peu. Il reparut le lendemain à l'instruction, dissimulant sa lettre dans sa manche, protesta de son innocence, feignit une grande colère, et en gesticulant avec le cachet déposé sur la table, il fit tout à coup tomber l'encrier sur le pantalon bleu du garde qui l'accompagnait. Et pendant que le pauvre pendeur, entouré du magistrat et du greffier, qui compatissait à son malheur, épongeait tristement son numéro 1, Ballmeyer profitait de l'inattention générale pour appliquer un fort coup de tampon sur l'ordre de mise en liberté et se confondait à son tour en excuses. Le tour était joué. L'escroc sortit en jetant négligemment le papier signé et timbré au garde de la souricière. « À quoi donc pense M. Villers, fit-il de me faire porter ses papiers, mais me prend-il pour son domestique ?» Les gardes ramassèrent précieusement l'imprimé et le brigadier de service le fit porter à son adresse à Mazas. C'était l'ordre de mettre sur le champ en liberté un nommé Ballmeyer. Le soir même, Ballmeyer était libre. C'était sa seconde évasion. Arrêté pour le vol Furet, il s'était échappé une première fois en passant la jambe et en jetant du poivre au garde qui l'amenait au dépôt. Et le soir même, il assistait, cravaté de blanc, à une première de la Comédie française. Déjà, à l'époque où il avait été condamné par le Conseil de guerre à 5 ans de travaux publics pour avoir volé la caisse de sa compagnie, il avait failli sortir du cherche-midi en se faisant enfermer par ses camarades dans un sac de papier de rebut. Un contre-appel imprévu fit échouer ce plan si bien conçu. Mais on n'en finirait point s'il fallait raconter ici les étonnantes aventures du premier Ballmeyer. Tour à tour, comte de Maupas, vicomte Drouet d'Erlon, comte de Modeville, comte de Bonneville, élégant, beau joueur, faisant la mode, il parcourt les plages et les villes d'eau, Biarritz, Aix-les-Bains, Luchon, perdant au cercle jusqu'à 10 000 francs dans sa soirée, entouré de jolies femmes qui se disputent ses sourires, car cet escroc émérite est doublé d'un séducteur. Au régiment, il avait fait la conquête, platonique heureusement, de la fille de son colonel. Allez, connaissez-vous le type maintenant? Eh bien, c'est cet homme que Joseph Rouletabille allait combattre. Je crus bien ce soir-là avoir suffisamment édifié Mistress Edith sur la personnalité du célèbre bandit. Elle m'écoutait dans un profond silence qui finit par m'impressionner. Et alors, me penchant sur elle, je m'aperçus qu'elle dormait. Cette attitude aurait pu ne point me donner une grande idée de cette petite personne, mais comme elle me permit de la contempler à loisir, il en résulta au contraire pour moi des sentiments que je voulus plus tard en vain chassée de mon cœur. La nuit se passa sans surprise. Quand le jour arriva, je le saluai avec un grand soupir de soulagement. Tout de même, Rouletabille ne me permit de m'aller coucher qu'à 8 heures du matin, quand il eut réglé son service de jour. Il était déjà au milieu des ouvriers qu'il avait fait venir et qui travaillaient activement à la réparation de la brèche de la tour B. Les travaux furent menés si judicieusement et si promptement que le château fort d'Hercule se trouva le soir même aussi hermétiquement clos dans la nature, avec toutes ses enceintes qui l'aient linéairement parlant sur le papier. Assis sur un gros moellon, ce matin-là, Rouletabille commençait déjà à dessiner sur son calepin le plan que j'ai soumis au lecteur, et il me disait, cependant que, fatigué de ma nuit, je fais des efforts ridicules pour ne point fermer les yeux. « Voyez-vous, Sinclair, les imbéciles vont croire que je me fortifie pour me défendre. » Eh bien, ce n'est là qu'une pauvre partie de la vérité, car je me fortifie surtout pour raisonner. Et si je bouche les brèches, c'est moins pour que l'arçan ne puisse s'y introduire que pour épargner à ma raison l'occasion d'une fuite. Par exemple, je ne pourrais raisonner dans une forêt. Comment voulez-vous raisonner dans une forêt? La raison fuit de toutes parts dans une forêt. Mais dans un château fort bien clos. Mon ami, c'est comme dans un coffre-fort bien fermé. Si vous êtes dedans et que vous ne soyez point fou, il faut bien que votre raison s'y retrouve. Oui, oui, répétai-je en branlant la tête, il faut bien que votre raison s'y retrouve. Eh bien là-dessus, me fit-il, allez vous coucher, mon ami, car vous dormez tout debout. Chapitre 9. Arrivée inattendue du vieux Bob. Quand on vint frapper à ma porte vers 11 heures du matin, cependant que la voix de la mère Bernier me transmettait l'ordre de Rouletabille de me lever, je me précipitai à ma fenêtre. La rade était d'une splendeur sans pareille, et la mer d'une transparence telle que la lumière du soleil la traversait comme eût fait d'une glace sans teint, de telle sorte qu'on apercevait les rochers, les algues et la mousse et tout le fond maritime comme si l'élément aquatique eût cessé de les recouvrir. La courbe harmonieuse de la rive mentonnaise enfermait cette onde pure dans un cadre fleuri. Les villas de gare à vent, toutes blanches et toutes roses, paraissaient fraîches et closes de cette nuit. La presqu'île d'Hercule était un bouquet qui flottait sur les eaux et les vieilles pierres du château embaumaient. Jamais la nature ne m'était apparue plus douce, plus accueillante, plus aimante, ni surtout plus digne d'être aimée. L'air serein, la rive nonchalante, la mer pâmée, les montagnes violettes, tout ce tableau auquel mes sens d'homme du Nord étaient peu accoutumés, évoquait des idées de caresse. C'est alors que je vis un homme qui frappait la mer. Oh, il la frappait à tour de bras. J'en aurais pleuré si j'avais été poète. Le misérable paraissait agité d'une rage affreuse. Je ne pouvais me rendre compte de ce qui avait excité sa fureur contre cette onde tranquille, mais celle-ci devait évidemment lui avoir donné quelque motif sérieux de mécontentement, car il ne cessait ses coups. Il s'était armé d'un énorme gourdin et, debout dans sa petite embarcation, qu'un enfant craintif poussait de la rame en tremblant, il administrait à la mer, un instant éclaboussée, une dégelée de marrons qui provoquait la muette indignation de quelques étrangers arrêtés au rivage. Mais, comme il arrive toujours en pareil cas où l'on redoute de se mêler de ce qui ne vous regarde pas, ceux-ci laissaient faire sans protester. Mais qu'est-ce qui pouvait ainsi exciter cet homme sauvage? peut-être bien le calme même de la mère, qui, après avoir été un moment troublée par l'insulte de ce fou, reprenait son visage immobile. Je fus alors interpellé par la voix amie de Rouletabille, qui m'annonçait que l'on déjeunait à midi. Rouletabille exhibait une tenue de plâtrier, tous ses habits attestant qu'il s'était promené dans des maçonneries trop fraîches. D'une main, il s'appuyait sur un mètre et son autre main jouait avec un fil à plomb. Je lui demandai s'il avait aperçu l'homme qui battait les eaux. Oh, il me dit que, répondit que c'était Tullio qui travaillait de son état à chasser le poisson dans les filets en lui faisant peur. C'est alors que je compris pourquoi, dans le pays, on l'appelait Tullio le bourreau de la mer. Rouletabille m'apprit encore par la même occasion qu'ayant interrogé Tullio ce matin sur l'homme qu'il avait conduit dans sa barque la veille au soir, et à qui il avait fait faire le tour de la presqu'île d'Hercule, Tullio lui avait répondu qu'il ne connaissait point cet homme, que c'était un original qu'il avait embarqué à Menton, et qu'il lui avait donné 5 francs pour qu'il le débarquât à la pointe des Rochers Rouges. Je m'habillai vivement et rejoignis Rouletabille, qui m'apprit que nous allions avoir au déjeuner un nouvel hôte. Il s'agissait du vieux Bob. On l'attendit pour se mettre à table, puis comme il n'arrivait point, on commença le déjeuner sans lui, dans le cadre fleuri de la terrasse ronde du Téméraire. Une admirable bouillabaisse, apportée toute fumante du restaurant des Grottes, qui possède la réserve la mieux fournie en rascasse et poissons de roche de tout le littoral, arrosé d'un petit vino del passe et servi dans la lumière et la gaieté des choses, contribua au moins autant que toutes les précautions de Rouletabille à nous rassérénés. En vérité, le véritable Larsan nous faisait moins peur sous le beau soleil des cieux éclatants qu'à la pâle lueur de la lune et des étoiles. Ah ! Que la nature humaine est oublieuse et facilement impressionnable. J'ai honte de le dire, nous étions très fiers, oh, tout à fait fiers, enfin du moins je parle pour moi et pour Arthur Rance, et aussi naturellement pour Mistress Edith, dont la nature romanesque et mélancolique était superficielle, tout à fait fiers de sourire de nos transes nocturnes et de notre garde armée, sur les boulevards de la citadelle, quand le vieux Bob fit son apparition. Et, disons-le, ce n'est point cette apparition qui eût pu nous ramener à des pensées plus moroses. J'ai rarement aperçu quelqu'un de plus comique que le vieux Bob se promenant dans le soleil éblouissant d'un printemps du midi, avec un chapeau haut de forme noire, sa redingote noire, son gilet noir, son pantalon noir, ses lunettes noires, ses cheveux blancs et ses joues roses. Oui, oui, nous avons bien ri sous la tonnelle de la tour de Charles Téméraire. Et le vieux Bob rit avec nous, car le vieux Bob est la gaieté même. Que faisait ce vieux savant au château d'Hercule ? Le moment est peut-être venu de le dire. Comment s'était-il résolu à quitter ses collections d'Amérique et ses travaux et ses dessins et son musée de Philadelphie ? Voilà. On n'a pas oublié que M. Arthur Rance était déjà considéré dans sa patrie comme un phrénologue d'avenir quand sa mésaventure amoureuse avec Mlle Stangerson l'éloigna tout à coup de l'étude qu'il prit en dégoût. Après son mariage avec Miss Edith, celle-ci l'y poussant, il sentit qu'il se remettrait avec plaisir à la science de Gall et de Lavater. Or, dans le moment même qu'il visitait la Côte d'Azur, l'automne qui précéda les événements actuels, on faisait grand bruit autour des découvertes nouvelles que Monsieur Abbeau venait de faire au Rocher Rouge, dénommé encore dans le patois mentonnais Bausse-Rousset. Depuis de longues années, depuis 1874, les géologues et tous ceux qui s'occupent d'études préhistoriques avaient été extrêmement intéressés par les débris humains trouvés dans les cavernes et les grottes des Rochers Rouges. Messieurs Julien, Rivière, Girardin, Delesseau étaient venus travailler sur place et avaient vu s'intéresser l'Institut et le ministère de l'Instruction publique à leur découverte. Celles-ci furent bientôt sensation, car elles attestaient, à ne pouvoir s'y méprendre, que les premiers hommes avaient vécu en cet endroit avant l'époque glaciaire. Sans doute la preuve de l'existence de l'homme à l'époque quaternaire était faite depuis longtemps, mais cette époque mesurant, d'après certains, 200 000 ans, il était intéressant de fixer cette existence dans une étape déterminée de ces 200 000 années. On fouillait toujours au Rocher Rouge et on allait de surprise en surprise. Cependant, la plus belle des grottes, le Barma Grande, comme on l'appelait dans le pays, était restée intacte, car elle était propriété privée de M. Abbeau, qui tenait le restaurant des grottes non loin de là, au bord de la mer. M. Abbeau venait de se déterminer, lui aussi, à fouiller sa grotte. Or, la rumeur publique, car l'événement avait dépassé les bornes du monde scientifique, la rumeur publique répandait le bruit qu'il venait de trouver dans la Barma Grande d'extraordinaires ossements humains, des squelettes très bien conservés par une terre ferrugineuse, contemporaine des mammouths du début de l'époque quaternaire ou même de la fin de l'époque tertiaire. Arthur Hans et sa femme coururent à Menton, et pendant que son mari passait ses journées à remuer des débris de cuisine, comme on dit en termes scientifiques, datant de 200 000 ans, fouillant lui-même l'humus de la Barma Grande et remesurant les crânes de nos ancêtres, sa jeune femme prenait un inlassable plaisir à s'accouder non loin de là, au créneau moyenâgeux d'un vieux château fort qui dressait sa massive silhouette sur une petite presqu'île reliée au Rocher Rouge par quelques pierres écoulées de la falaise. Les légendes les plus romanesques se rattachaient à ce vestige des vieilles guerres génoises, et il semblait à Edith, mélancoliquement penchée au haut de sa terrasse, sur le plus beau décor du monde, qu'elle était une de ces nobles demoiselles de l'ancien temps dont elle avait tant aimé les cruelles aventures dans les romans de ses auteurs favoris. Le château était à vendre à un prix des plus raisonnables. Arthur Rance l'acheta, et ce faisant, il combla de joie sa femme, qui fit venir les maçons et les tapissiers, et eut au fait, en 3 mois, de transformer cette antique bâtisse en un délicieux nid d'amoureux pour une jeune personne qui se souvient de la dame du lac et de la fiancée de la mère Maure. Quand Arthur Hans s'était trouvé en face du dernier squelette découvert dans la Barma Grande, ainsi que des fémurs de l'Elephas Anticus, sortis de la même couche de terrain, il avait été transporté d'enthousiasme, et son premier soin avait été de télégraphier au vieux Bob que l'on avait peut-être enfin découvert à quelques kilomètres de Monte-Carlo ce qu'il cherchait au prix de 1000 périls depuis tant d'années au fond de la Patagonie. Mais son télégramme ne parvint pas à destination, car le vieux Bob, qui avait promis de rejoindre le nouveau ménage dans quelques mois, avait déjà pris le bateau pour l'Europe. Évidemment, la renommée l'avait déjà renseigné sur les trésors de Bausse-Rousset. Quelques jours plus tard, il débarquait à Marseille et arrivait à Menton, où il s'installait en compagnie d'Arthur Rance et de sa nièce dans le fort d'Hercule, qu'il remplit aussitôt des éclats de sa gaieté. La gaieté du vieux Bob nous paraît un peu théâtrale, mais c'est là sans doute un effet de notre triste humeur de la veille. Le vieux Bob a une âme d'enfant. Et il est coquet, comme une vieille femme, c'est-à-dire que sa coquetterie change rarement d'objet, et qu'ayant une fois pour toutes adopté un costume sévère, de préférence correct, redingote noire, gilet noir, pantalon noir, cheveux blancs, joues roses, elle s'attache uniquement à en perpétuer l'impressionnante harmonie. C'est dans cet uniforme professoral que le vieux Bob chassait le tigre des pampas et qu'il fouille maintenant les grottes des Rochers Rouges à la recherche des derniers ossements de l'éléphas anticus. Mistress Edith nous le présenta et il poussa un gloussement poli et puis il se reprit à rire de toute sa large bouche qui allait de l'un à l'autre de ses favoris poivre et sel qu'il avait soigneusement taillés en triangle. Le vieux Bob exultait et nous en apprîmes bientôt la raison. Il rapportait de sa visite au muséum de Paris la certitude que le squelette de la Barba Grande n'était point plus ancien que celui qu'il avait rapporté de sa dernière expédition à la Terre de Feu. Tout l'Institut était de cet avis et prenait pour base de ses raisonnements le fait que l'os à moelle de l'éléphas que le vieux Bob avait apporté à Paris et que le propriétaire de la Barba Grande lui avait prêté après lui avoir affirmé qu'il l'avait trouvé dans la même couche de terrain que le fameux squelette, que cet os à moelle, disons-nous, appartenait à un éléphas anticus du milieu de la période quaternaire. Ah, il fallait entendre avec quel joyeux mépris le vieux Bob parlait de ce milieu de la période quaternaire. À cette idée d'un os à moelle du milieu de la période quaternaire, il éclatait de rire, comme si on lui avait conté une bonne farce. Est-ce qu'à notre époque, un savant, un véritable savant, digne en vérité de ce nom de savant, pouvait encore s'intéresser à un squelette du milieu de la période quaternaire? Mais le sien, son squelette, ou tout au moins celui qu'il avait rapporté de la Terre de Feu, datait du commencement de cette période, par conséquent était plus vieux de 100 000 ans. Vous attendez 100 000 ans. Et il en était sûr, à cause de cette omoplate ayant appartenu à l'ours des cavernes, omoplate qu'il avait trouvé, lui, le vieux Bob, entre les bras de son propre squelette. Il disait « mon propre squelette », ne faisant plus de différence dans son enthousiasme entre son squelette vivant, qu'il habillait tous les jours de sa redingote noire, de son gilet noir, de son pantalon noir, de ses cheveux blancs et de ses joues roses, et le squelette préhistorique de la Terre de Feu. « Ainsi, mon squelette date de l'ours des cavernes, mais celui de Bausserousse, mes enfants, tout au plus de l'époque du mammouth, et encore, non, du rhinocéros à narines cloisonnées. Ainsi, on n'a plus rien à découvrir, mesdames et messieurs, dans la période du rhinocéros à narines cloisonnées. Je vous le jure, foi de vieux Bob, mon squelette à moi tient de l'époque helléenne, comme vous dites en France. Pourquoi riez-vous, espèce d'âne? Tandis que je ne suis même point sûr que l'éléphas anticus des Rochers Rouges date de l'époque moustérienne. Et pourquoi pas de l'époque solutréenne? Ou encore de l'époque magdalénienne? Non, c'en est trop. Un éléphas anticus de l'époque magdalénienne, c'est pas possible. Cet éléphas me rendra fou. Cet anticus me rendra malade. Ah, j'en mourrai de joie. Pauvre Bausserousse. Mistress Edith eut la cruauté d'interrompre la jubilation du vieux Bob en lui annonçant que le prince Galitch, qui s'était rendu acquéreur de la grotte de Roméo et Juliette au Rocher Rouge, devait avoir fait une découverte tout à fait sensationnelle, car elle l'avait vu, le lendemain même du départ du vieux Bob pour Paris, passer devant le fort d'Hercule, en portant sous son bras une petite caisse qu'il lui avait montrée en lui disant « Voyez-vous, Mistress Strand, J'ai là un trésor, oh, un véritable trésor. » Elle avait demandé ce que c'était que ce trésor, mais l'autre l'avait agacé, disant qu'il voulait en faire la surprise au vieux Bob à son retour. Enfin, le prince Galitch lui avait avoué qu'il venait de découvrir le plus vieux crâne de l'humanité. Mistress Edith n'avait pas plutôt prononcé cette phrase que toute la gaieté du vieux Bob s'écroula. Une fureur souveraine se répandit sur ses traits ravagés et il cria « Mais ce n'est pas vrai, le plus vieux crâne de l'humanité, il est au vieux Bob, c'est le crâne du vieux Bob !» Et il hurla « M'attends, m'attends, fais apporter ma malle ici, ici !» Justement, Matoni traversait la cour de Charles le Téméraire avec le bagage du vieux Bob sur son dos. Il obéit au professeur et apporta la malle devant nous. Sur quoi le vieux Bob, prenant son trousseau de clés, se jeta à genoux et ouvrit la caisse. De cette caisse, qui contenait des effets du linge plié avec beaucoup d'ordre, il sortit un carton à chapeau. Et de ce carton à chapeau, il sortit un crâne qu'il déposa au milieu de la table parmi nos tasses à café. « Le plus vieux crâne de l'humanité, dit-il, le voilà. C'est le crâne du vieux Bob, regardez-le, c'est lui. Le vieux Bob ne sort jamais sans son crâne. » Et il le prit et se mit à le caresser, les yeux brillants et les lèvres épaisses écartées à nouveau par le rire. Si vous voulez bien vous représenter que le vieux Bob savait imparfaitement le français et le prononçait mi à l'anglaise, mi à l'espagnol, il parlait parfaitement l'espagnol, vous voyez, vous entendez la scène. Rouletabille et moi, nous n'en pouvions plus et nous nous tenions les côtes de rire. D'autant mieux que dans ses discours, le vieux Bob s'interrompait lui-même de rire pour nous demander quel était l'objet de notre gaieté. Sa colère eut auprès de nous plus de succès encore, et il n'est pas jusqu'à Madame Darzac qui ne s'essuya les yeux, parce qu'en vérité, le vieux Bob était drôle à faire pleurer avec son plus vieux crâne de l'humanité. Je pus constater à cette heure où nous prenions le café qu'un crâne de 200 000 ans n'est point effrayant à voir, surtout si, comme celui-là, il a toutes ses dents. Soudain, le vieux Bob devint sérieux. Il éleva le crâne dans la main droite et l'index de la main gauche appuyé au front de l'ancêtre. Lorsqu'on regarde le crâne par le haut, on note une forme pentagonale très nette qui est due au développement notable des bosses pariétales et à la saillie de l'écaille de l'occipital. La grande largeur de la face tient au développement exagéré des accords zygomatiques, tandis que dans la tête des troglodytes des Bauserussés, qu'est-ce que j'aperçois ? Je ne saurais dire ce que le vieux Bob aperçut dans ce moment-là, dans la tête des troglodytes, car je ne l'écoutais plus, mais je le regardais. Et je n'avais plus envie de rire du tout. Le vieux Bob me parut effrayant, farouche, factice comme un vieux cabot avec sa gaieté en fer blanc et sa science de pacotille. Je ne le quittais plus des yeux. Il me sembla que ses cheveux remuaient, oui, comme remue une perruque. Une pensée, ou la pensée de Larsan qui ne me quittait plus jamais complètement, m'embrasa la cervelle. J'allais peut-être parler quand un bras se glissa sous le mien et je fus entraîné par Rouletabille. « Qu'avez-vous, Sinclair ?» me demanda sur un ton affectueux le jeune homme. « Mon ami, je ne vous le dirai point car vous vous moqueriez encore de moi. » Il ne me répondit pas tout d'abord et m'entraîna vers le boulevard de l'Ouest. Là, il regarda autour de lui, vit que nous étions seuls et me dit « Non, Sinclair, non, je ne me moquerai point de vous. car vous êtes dans la vérité en le voyant partout autour de vous. S'il n'y était point tout à l'heure, il y est peut-être maintenant. Oh, il est plus fort que les pierres, il est plus fort que tout. Je le redoute moins dehors que dedans. Mais je serais bien heureux que ces pierres que j'ai appelées à mon secours pour l'empêcher d'entrer m'aident à le retenir. Car, Sinclair, je le sens ici. Je serrai la main de Rouletabille, car moi aussi, chose singulière, j'avais cette impression. Je sentais sur moi les yeux de Larsan. Je l'entendais respirer. Quand cette sensation avait-elle commencé, je n'aurais pu le dire, mais il me semblait qu'elle m'était venue avec le vieux Bob. Je dis à Rouletabille avec inquiétude, « Le vieux Bob ?» Il ne me répondit pas. Au bout de quelques instants, il dit, « Prenez-vous toutes les 5 minutes la main gauche avec la main droite et demandez-vous, « Est-ce toi, Larsan ?» Quand vous serez répondu, « Ne soyez pas trop rassuré, car il vous aura peut-être menti, et il sera déjà dans votre peau que vous n'en sauriez rien encore. » Sur quoi Rouletabille me laissa seul sur le boulevard de l'Ouest. C'est là que le père Jacques va me trouver. Il m'apportait une dépêche. Avant de la lire, je le félicitais sur sa bonne mine. Comme nous tous, il avait cependant passé une nuit blanche, mais il m'expliqua que le plaisir de voir enfin sa maîtresse heureuse le rajeunissait de 10 ans. Puis il tenta de me demander les motifs de la veille étrange qu'on lui avait imposée et le pourquoi de tous les événements qui se poursuivaient au château depuis l'arrivée de Rouletabille et des précautions exceptionnelles qui avaient été prises pour en défendre l'entrée à tout étranger. Il ajouta même que si cet affreux Larsan n'était point mort, il serait porté à croire qu'on redoutait son retour. Je lui répondis que ce n'était point le moment de raisonner et que, s'il était un brave homme, il devait, comme tous les autres serviteurs, observer la consigne en soldat sans essayer d'y rien comprendre, ni surtout de la discuter. Il me salua et s'éloigna en hochant la tête. Cet homme était évidemment très intrigué, et il ne me déplaisait point que, puisqu'il avait la surveillance de la porte nord, il songea à Larsan. Lui aussi avait failli être victime de Larsan. Il ne l'avait pas oublié. Il s'en tiendrait mieux sur ses gardes. Je ne me pressais point d'ouvrir cette dépêche que le père Jacques m'avait apportée, et j'avais tort, car elle me parut extraordinairement intéressante dès le premier coup d'œil que j'y portais. Mon ami de Paris, qui, sur ma prière, m'avait déjà renseigné sur Brignoles, m'apprenait que ledit Brignoles avait quitté Paris la veille le soir pour le midi. Il avait pris le train de 10h35 du soir, et mon ami me disait qu'il avait des raisons de croire que Brignoles avait pris un billet pour Nice. Qu'est-ce que Brignoles venait faire à Nice ? C'est une question que je me posais et que, dans un sot accès d'amour-propre, que j'ai bien regretté depuis, je ne soumis point à Rouletabille. Celui-ci s'était si bien moqué de moi lorsque je lui avais montré la première dépêche m'annonçant que Brignoles n'avait point quitté Paris, que je résolus de ne point lui faire part de celle qui m'affirmait son départ. Puisque Brignoles avait si peu d'importance pour lui, je n'aurais garde de l'excéder avec Brignoles. Et je gardais Brignoles pour moi tout seul. Si bien que, prenant mon air le plus indifférent, je rejoignis Rouletabille dans la cour de Charles le Téméraire. Il était en train de consolider avec des barres de fer la lourde planche de chêne circulaire qui fermait l'ouverture du puits, et il me démontra que, même si le puits communiquait avec la mer, il serait impossible à quelqu'un qui tenterait de s'introduire dans le château par ce chemin de soulever cette planche et qu'il devrait renoncer à son projet. Oh, il était en sueur, les bras nus, le col arraché, un lourd marteau à la main. Je trouvais qu'il se donnait bien du mouvement pour une besogne relativement simple, et je ne pus me retenir de le lui dire comme un sot qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Est-ce que je n'aurais pas dû deviner que ce garçon s'exténuait volontairement et qu'il ne se livrait à toute cette fatigue physique que pour s'efforcer d'oublier le chagrin qui lui brûlait sa brave petite âme? Mais non, je n'ai pu comprendre cela qu'une demi-heure plus tard, en le surprenant étendu sur les pierres en ruine de la chapelle, exhalant dans le sommeil qui était venu le terrasser sur ce lit un peu rude. Un mot, un simple mot, qui me renseignait suffisamment sur son état d'âme. « Maman !» Rouletabille rêvait de la dame en noir. Il rêvait peut-être qu'il l'embrassait comme autrefois, quand il était tout petit et qu'il arrivait tout rouge d'avoir couru dans le parloir du collège 2. J'attendis alors un instant, me demandant avec inquiétude s'il fallait le laisser là et s'il n'allait point par hasard, dans son sommeil, laisser échapper son secret. Mais, ayant avec ce mot soulagé son cœur, il ne laissa plus entendre qu'une musique sonore. Rouletabille ronflait comme une toupie. Je crois bien que c'était la première fois que Rouletabille dormait réellement depuis notre arrivée de Paris. J'en profitais pour quitter le château sans avertir personne, et bientôt, ma dépêche en poche, je prenais le train pour Nice. Ensuite, j'eus l'occasion de lire cet écho de première page du Petit Niçois. Le professeur Stangerson est arrivé à gare avant, où il va passer quelques semaines chez M. Arthur Hans, qui s'est rendu acquéreur du fort d'Hercule, et qui, aidé de la gracieuse Mistress Arthur Rance, se plaît à offrir la plus exquise hospitalité à ses amis dans ce cadre pittoresque et moyenâgeux. À la dernière minute, nous apprenons que la fille du professeur Stangerson, dont le mariage avec M. Robert Darzac vient d'être célébré à Paris, est arrivée également au fort d'Hercule avec le jeune et célèbre professeur de la Sorbonne. Ces nouveaux hôtes nous descendent du nord au moment où tous les étrangers nous quittent. Combien ils ont raison! Il n'est point de plus beau printemps au monde que celui de la Côte d'Azur. À Nice, dissimulé derrière une vitre du buffet, je guettais l'arrivée du train de Paris dans lequel pouvait se trouver Brignol. Et justement, je vis descendre mon Brignol. Ah, mon cœur battait ferme! Car enfin ce voyage dont il n'avait point fait part à M. Darzac ne me paraissait rien moins que naturel. Et puis, je n'avais pas la berlue. Brignol se cachait. Brignol baissait le nez. Brignol se glissait, rapide comme un voleur, parmi les voyageurs vers la sortie. Mais j'étais derrière lui. Il sauta dans une voiture fermée. Je me précipitai dans une voiture non moins fermée. Place Masséna, il quitta son fiacre, se dirigea vers la jetée promenade et là prit une autre voiture. Je le suivais toujours. Ses manœuvres me paraissaient de plus en plus louches. Enfin, la voiture de Brignol s'engagea sur la route de la Corniche et, prudemment, je pris le même chemin que lui. Les nombreux détours de cette route, ses courbes accentuées, me permettaient de voir sans être vu. J'avais promis un fort pourboire à mon cocher. S'il m'aidait à réaliser ce programme, il s'y employa le mieux du monde. Ainsi arrivâmes-nous à la gare de Beaulieu. Là, je fus bien étonné de voir la voiture de Brignol s'arrêter à la gare et Brignol descendre, régler son cocher, et entrer dans la salle d'attente. Il allait prendre un train. Comment faire? Si je voulais monter dans le même train que lui, n'allait-il point m'apercevoir dans cette petite gare, sur ce quai désert? Enfin, je devais tenter le coup. S'il m'apercevait, j'en serais quitte pour feindre la surprise et ne plus lâcher jusqu'à ce que je fusse sûr de ce qu'il venait faire dans ces parages. Mais la chose se passa fort bien, et Brignol ne m'aperçut pas. Il monta dans un train omnibus qui se dirigeait vers la frontière italienne. En somme, tous les pas de Brignol le rapprochaient du fort d'Hercule. J'étais monté dans le wagon qui suivait le sien, et je surveillais le mouvement des voyageurs à toutes les gares. Brignol ne s'arrêta qu'à Menton. Il avait voulu certainement y arriver par un autre train que le train de Paris, et dans un moment où il avait peu de chances de rencontrer des visages de connaissance à la gare. Je le vis descendre. Il avait relevé le col de son pardessus et enfoncé davantage encore son chapeau de feutre sur ses yeux. Il jeta un regard circulaire sur le quai et, rassuré, se pressa vers la sortie. Dehors, il se jeta dans une vieille et sordide diligence qui attendait le long du trottoir. D'un coin de la salle d'attente, j'observais Montbrignol. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Et où allait-il dans cette vieille guimbarde poussiéreuse? J'interrogeai un employé qui me dit que cette voiture était la diligence de Sospel. Sospel est une petite ville pittoresque, perdue entre les derniers contreforts des Alpes, à 2h30 de Menton en voiture. Aucun chemin de fer n'y passe. C'est l'un des coins les plus retirés, les plus inconnus de la France, et les plus redoutés des fonctionnaires et des chasseurs alpins qui y tiennent garnison. Seulement, le chemin qui y mène est l'un des plus beaux qui soit, car il faut, pour découvrir Sospel, contourner je ne sais combien de montagnes, longer de hauts précipices, et suivre jusqu'à Castillon l'étroit des profondes vallées du Caril, tantôt sauvage comme un paysage de Judée, tantôt verte ou fleurie, féconde, douce au regard, avec le frémissement argenté de ces innombrables plants d'oliviers qui descendent du ciel jusqu'au lit clair du torrent par un escalier de géant. J'étais allé à Sospel quelques années auparavant avec une bande de touristes anglais dans un immense char traîné par 8 chevaux. J'avais gardé de ce voyage une sensation de vertige que je retrouvais tout entière dès que le nom fut prononcé. Mais qu'est-ce que Brignol allait faire à Sospel? Il fallait le savoir. La diligence s'était remplie et déjà elle se mettait en route dans un grand bruit de ferraille et de vitres dansantes. Je fis marcher avec une voiture de place et moi aussi j'escaladai la vallée du Caraï. Oh! Comme je regrettais déjà de n'avoir pas averti Rouletabille. L'attitude bizarre de Brignol lui donnait des idées utiles, des idées raisonnables. Tandis que moi, je ne savais pas raisonner, je ne savais que suivre ce Brignol comme un chien suit son maître ou un policier son gibier à la piste. Et encore, si je l'avais bien suivi, cette piste. Et c'est dans le moment qu'il ne valait pour rien au monde la perdre qu'elle m'échappa, dans le moment où je venais de faire une découverte formidable. J'avais laissé la diligence prendre une certaine avance, précaution que j'estimais nécessaire, et j'arrivais moi-même à Castillon peut-être 10 minutes après Brignol. Castillon se trouve tout à fait au sommet de la route entre Menton et Sospel. Mon cocher me demanda la permission de laisser souffler un peu son cheval et de lui donner à boire. Je descendis de voiture et qu'est-ce que je vis à l'entrée d'un tunnel sous lequel il était nécessaire de passer pour atteindre le versant opposé de la montagne? Brignol et Frédéric Larsan. Oh, je restais planté sur mes pieds, comme si soudain j'avais pris racine au sol. Je n'eus pas un cri, pas un geste. J'étais ma foi foudroyé par cette révélation. Puis je repris mon esprit, et en même temps qu'un sentiment d'horreur m'envahissait pour Brignol, un sentiment d'admiration m'envahissait pour moi-même. Ah, j'avais deviné juste. J'étais le seul à avoir deviné que ce brignol du diable était un danger terrible pour Robert Darzac. Si l'homme avait écouté, il y aurait beau temps que le professeur Sorbonien s'en serait séparé. Brignol, créature de Larsan, complice de Larsan, quelle découverte! Quand je disais que les accidents de laboratoire n'étaient pas naturels, me croira-t-on maintenant? Ainsi, j'avais bien vu Brignol et Larsan se parlant, discutant à l'entrée du tunnel de Castillon. Je les avais vus. Mais où donc étaient-ils passés? Car je ne les voyais plus. Dans le tunnel, évidemment. Je hâtai le pas, laissant là mon cocher, et arrivai moi-même sous le tunnel, tâtant dans ma poche mon revolver. J'étais dans un état. Oh, qu'est-ce qu'allait dire Rouletabille quand je lui raconterais une chose pareille? Moi, j'avais découvert Brignol et Larsan. Mais où sont-ils? Je traverse le tunnel tout noir, pas de Larsan, pas de Brignol. Je regarde la route qui descend vers Sospel. Personne sur la route. Mais sur ma gauche, vers le vieux Castillon, il m'a semblé apercevoir deux ombres qui se hâtent. Elles disparaissent. Je cours, j'arrive au milieu des ruines, je m'arrête. Qui me dit que les deux ombres ne me guettent point derrière un mur? Ce vieux Castillon n'était plus habité, et pour cause. Il avait été entièrement ruiné, détruit par le tremblement de terre de 1887. Il ne restait plus, çà et là, que quelques pans de murailles achevant tout doucement de s'écrouler, quelques masures décapitées et noircies par l'incendie, quelques piliers isolés qui étaient restés debout, épargnés par la catastrophe, et qui se penchaient mélancoliquement vers le sol, tristes de n'avoir plus rien à soutenir. Quel silence autour de moi! Avec mille précautions, j'ai parcouru ces ruines, considérant avec effroi la profondeur des crevasses que près de là la secousse de 1887 avait ouverte dans le roc. L'une particulièrement paraissait un puits sans fond, et comme j'étais penché au-dessus d'elle, me retenant au tronc noirci d'un olivier, je fus presque bousculé par un coup d'aile. J'en sentis le vent sur ma figure et je reculai en poussant un cri. Un aigle venait de sortir, rapide comme une flèche, de cet abîme. Il monta droit au ciel et puis je le vis redescendre vers moi et décrire des cercles menaçants au-dessus de ma tête, poussant des clameurs sauvages comme pour me reprocher d'être venu le troubler dans son royaume de solitude et de mort que le feu et la terre lui avaient donné. Ai-je été victime d'une illusion? Je ne revis plus mes deux ombres. Étais-je encore le jouet de mon imagination en ramassant sur le chemin un morceau de papier à lettres qui me parut ressembler singulièrement à celui dont M. Robert Darzac se servait à la Sorbonne? Sur ce bout de papier, je déchiffrais deux syllabes que je pensais avoir été tracées par Brignol. Ces syllabes devaient terminer un mot dont le commencement manquait. À cause de la déchirure, on ne pouvait plus lire que Bonnet, B-O-N-N-E-T. 2 heures plus tard, je rentrais au fort d'Hercule et racontais le tout à Rouletabille, qui se borna à mettre le morceau de papier dans son portefeuille et à me prier de garder le secret de mon expédition pour moi tout seul. Étonné de produire si peu d'effet avec une découverte que je jugeais si importante, je regardai Rouletabille. Il détourna la tête, mais point assez vite pour qu'il pût me cacher ses yeux pleins de larmes. « Rouletabille ! » m'écriai-je. Mais encore il me ferma la bouche. « Silence, Sinclair, silence !» Je lui pris la main. Il avait la fièvre. Je pensais bien que cette agitation ne lui venait point seulement de préoccupations relatives à l'argent. Je lui reprochais de me cacher ce qui se passait entre lui et la dame en noir, mais il ne me répondit pas, suivant sa coutume, et s'éloigna une fois de plus en poussant un profond soupir. On m'avait attendu pour dîner. Il était tard. Le dîner fut lugubre malgré les éclats de la gaieté du vieux Bob. Nous n'essayons même plus de nous dissimuler l'atroce angoisse qui nous glaçait le cœur. On eût dit que chacun de nous était renseigné sur le coup qui nous menaçait et que le drame pesait déjà sur nos têtes. Monsieur et Madame Darzac ne mangeaient pas. Mistress Edith me regardait d'une singulière façon. À 10 heures, j'allais prendre ma faction, avec soulagement, sous la poterne du jardinier. Pendant que j'étais dans la petite salle du conseil, la dame en noir et rouletabille passèrent sous la voûte. Un falot les éclairait. Madame Darzac m'apparut dans un état d'exaltation remarquable. Elle suppliait Rouletabille avec des mots que je ne saisissais pas. Je n'entendis de cette sorte d'altercation qu'un seul mot, prononcé par Rouletabille, « voleur ». Tous deux étaient entrés dans la cour du téméraire. La dame en noir tendit vers le jeune homme des bras qu'il ne vit pas, car il la quitta aussitôt et s'en fut s'enfermer dans sa chambre. Elle resta seule un instant dans la cour, s'appuya au tronc de l'eucalyptus dans une attitude de douleur inexprimable, puis rentra à pas lents dans la tour carrée. Nous étions au 10 avril. L'attaque de la tour carrée devait se produire dans la nuit du 11 au 12.